Avec ma nouvelle émission Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radiooloron.fr. Il était une fois le conte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site ilétaitunefoislecomte.wordpress.com. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Oloron. Il était une fois le conte parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Moi je raconte des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer, car du fond de mon cœur, c'est vous qui parlez. Je suis poète à mes heures, mais surtout, c'est de vous écouter parler de tout. Mais tout au long de mes rêves, et chaque fois que je m'arrête à penser, on me parle à l'oreille du courage, de tout ce qu'il faudrait changer. Mais de l'autre, j'entends qu'on préfère rester dans son coin. C'est le jour, c'est le temps, c'est dans l'air que c'est qu'on va chanter si on s'y laisse aller. C'est comme l'histoire des nuages, puis du vent qui arrêtait pas de souffler. On m'a dit qu'à l'orage, y'a rien que le vent qui pouvait tout faire passer. Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même si le vent peut faire peur, c'est lui qu'il faut chanter.
À Saint-Élie Caxton, y a bien des paroles qui s'envolent, mais y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
Bonjour et bienvenue pour cette 9e émission déjà de Il était une fois le conte sur les ondes de Radio Oloron. Et aujourd'hui donc la 4e consacrée au conte merveilleux, cette émission numéro 9, et plus spécifiquement au conte ayant des rapports avec des objets magiques. Alors figurez-vous auparavant que dans l'émission numéro 6, pour en revenir à cette émission, nous nous étions fait dans les oreilles La mort marraine par Michel Bouet. Et figurez-vous, j'ai retrouvé ma version, Le filleul de la mort. C'est ma version à moi, c'est un peu pompé sur Yannick Jolem. Je souhaite qu'on se le fasse. Voilà, enregistré donc lors d'une soirée avec les raconteurs de Sainte-Croix à Sainte-Croix à Oloron-Sainte-Marie, le 25 juin 2005. On se retrouve après.
La troisième partie de cette première partie s'appelle les trois états du moi. J'ai pas voulu participer, donc ils font un jeu des trois états du moi. Mais je tiens quand même à vous rappeler d'abord que le moi commence toujours le premier.
C'est pas facile. C'est pas facile, voyez-vous, de trouver un parrain digne du nom pour un fils. C'est pas facile. C'est dur de choisir. Premier état, l'incertitude. Un homme avait eu un enfant sur le tard. Deuxième état, la vieillesse. Sa femme était morte en couche, un autre état, la mort. Et lui, il s'était mis en tête de trouver un parrain, un homme. Il voulait pour parrain, pour son fils, un homme paré de la plus belle des vertus. Il voulait pour son fils quelqu'un de parfaitement juste. Il a parcouru les routes. Un autre état, là, que l'on croise, c'est l'état de marche. Il a parcouru les routes. Il a été voir les rois, les princes. Mais il s'est aperçu que c'était peut-être pas par là qu'il fallait aller. Il a rencontré la justice des hommes. Il s'est aperçu que la justice des hommes était aussi imparfaitement juste que les hommes eux-mêmes. Puis il a continué sa route en se disant que peut-être il en demandait trop, que quelqu'un de parfaitement juste, ça ne devait pas exister. Et notre état, la déception. Et là, au détour d'un chemin, il a croisé la mort. La mort l'a terrassé. La mort l'a mise à bas. Oh, la mort, c'est toi que cherches. C'est toi. Dis, tu voudrais pas être le parrain de mon fils. Il était joyeux, là. La mort, vous voyez, elle a été perturbée parce qu'elle n'a pas l'habitude, la mort, vous voyez, qu'on lui demande, qu'on lui fasse trop ce genre de proposition. Donc, il a fallu qu'elle réfléchisse un peu. Un état de questionnement permanent, vous voyez. Et puis finalement, la mort accepte. Et peu de temps après, le père meurt. Son père, faut le savoir, avait prénommé son fils Sauveur. Et oui, c'est très ambitieux. Car il voulait pour son fils, que son fils accomplisse une grande destinée. Il voulait en faire un médecin, qu'il puisse sauver des vies, vous voyez. Et la mort a pris avec elle Sauveur, son filleul, afin de l'éduquer. Elle s'est sentie investie d'une mission. Et puis elle lui a appris quand Sauveur a eu l'âge d'être médecin, la mort a appris à Sauveur le métier de médecin. Et Sauveur, au bout d'un moment, il était doué. Mais elle lui a quand même dit, voilà, maintenant que tu es médecin, tu vas pouvoir vraiment accomplir ton boulot de médecin, il y a un truc qu'il faut que tu saches. Quand, à chaque fois que tu me verras, au pied du lit d'un patient, d'un malade, ça voudra dire que cette personne-là va mourir. Toi, tu seras un passeur, tu auras juste à l'aider à basculer. Par contre, si moi, à la mort, tu me vois à la tête du lit d'un malade, ça voudra dire que tu pourras le sauver. Ça sera dur, parfois très très dur. Parfois, tu échoueras, mais au moins, tu auras essayé. Il part sur les routes comme ça. Et Sauveur, il est doué. Il est presque trop doué. La mort était satisfaite, vous voyez, de son filleul. Et Sauveur, vous voyez, il n'a jamais désobéi aux recommandations de la mort. Et tout va bien. Jusqu'à ce matin-là. Jusqu'à cette maison basse. Jusqu'à cette femme dans ce lit. Livide. Blanche de vie. Ou plutôt de mort. Et Sauveur, il sait dès qu'il la voit que c'est elle qu'il a dans son cœur depuis toujours. Et là, non. Colère. La mort est aux pieds. La mort est au pied. Déception, peine, rage, questionnement. Sauveur trouve une ruse comme ça, il fait à la mort, « Et regarde la mort là-bas » La mort détourne la tête, « Sauveur fait pivoter le lit, vite, et du coup, la mort se trouve à la tête du lit. La mort sort de la pièce, dans un état de dégoût profond, haussant les épaules en meloulant. Et Sauveur, il se met à travailler, à la soigner, cette femme qui est blanche, livide de vie, que la vie a presque fui, a presque désertée. Et Sauveur, il transpire, il sue sang et eau, 2 jours, 3 nuits. Et là, ce matin-là, ce sourire qui revient sur le visage et les couleurs qui reviennent sur le visage de cette femme-là, oh, Sauveur, il est dans un état de benaiserie totale, vous voyez. Yahou, tralala! La mort sort, Sauveur sort rejoindre son parrain, la mort qui l'attend sur le perron. Et il dit, t'étais au pied. Mais bon sang, t'étais au pied! Et là, la mort tout confondue de dire, non, je m'excuse, mais il me semble que tu n'as pas très bien compris les raisons qui ont fait que ton père m'a choisi. Moi, la mort, pour être ton parrain. Mais viens, je vais t'expliquer. Sauveur, et la mort entraîne Sauveur dans une longue balade sur les plus belles routes du monde et de l'univers, jusqu'à ce que Sauveur et la mort arrivent dans une grande demeure, une immense demeure, un grand manoir tout sombre, à la demeure de la mort, mais en visite. Et là, Sauveur voit, stupéfaction, voit plein de bougies qui flottent, qui scintillent dans les airs. Il y en a des grandes, des petites, des chancelantes, des carrés, des ovales, des avec oreilles de Mickey, et des avec sigle UMP, tout ça. Non, ça, j'avais envie. Et là, la mort explique à Sauveur que chaque vie de chaque homme et chaque femme de la terre est représentée, symbolisée par une bougie. Et la mort montre celle de Sauveur. Et Sauveur voit la sienne, large à la base, mais presque finite. C'est horreur. Non, mais tu peux pas. Si elle est presque finie, dis-moi. Tu peux pas bricoler en donner un bout de celle-là là-bas. Je suis sûr, le gars, il est gros, il est moche, il vote FN et ou UMP, et il aime Sarko. Et il a fait oui pour la Constitution. Donc, tu rafistoles, tu m'en donnes un bout. Et la mort fait non. Non. Ton père avait voulu quelqu'un de juste pour être ton parrain. Moi, je suis juste, je touche à rien, je suis un bon ouvrier. Chaque bougie qui s'éteint, moi, je prends ma pelle, ma balayette, je ramasse. Je suis un bon ouvrier, je touche jamais à rien. Il y a cette femme-là dans ce lit, mais c'est toi, c'est pas moi. Et Sauveur baisse la tête, tristesse, et commence à pleurer. Et là, la mort, tout émotionnée, fait à Sauveur, redresse-toi. Lève la tête. Lève la tête! Il faut des hivers pour qu'il y ait de nouveaux printemps. Il faut des bougies qui s'éteignent pour qu'il y en ait d'autres qui s'allument. Il faut parfois détruire, voire tout détruire, pour pouvoir tout et mieux reconstruire. Sauveur rentre chez lui. En cours de route, il dit bonjour aux arbres, aux oiseaux, dans un état de soulagement profond. Et depuis le jour, Sauveur, il est chez lui, il attend que son parrain, la mort, vienne le chercher. Et voilà.
Donc aujourd'hui, notre 9e émission, on est toujours sur les contes merveilleux pour la 4e fois et on va causer des contes avec des objets magiques dedans. Et donc quand on pense aux objets magiques, on pense à Aladdin et Salan, on pense au petit poussé et ses bottes de 7 lieues. On peut penser aussi à des bagues, des anneaux magiques aussi. Moi, je vous propose que l'on se fasse notre histoire de moi-même, qui celle-ci a été enregistrée à Biscarrosse. Et qui a été recueilli dans sa version initiale par monsieur Félix Arnaudin, grand collecteur landais. Et on se fait suivre ça par Linda Lemay avec le morceau Debout sur les pissenlits. Avec ma nouvelle émission Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radiooloron.fr. Il était une fois le conte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site ilétaitunefoislecomte.wordpress.com. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Oloron. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Monseigneur, il nous parle, ça ne se passait pas très loin, ça nous parle d'un prince qui à l'époque, à Biscarrosse, il y avait un château. Et là vivait un prince. Et ce prince-là, il faisait la fête. Il avait plein d'amis. Tous les soirs, le château était plein à craquer de convives. Et puis ça festoyait là-dedans, ça buvait, ça chantait au son du tambourin, jusqu'à des heures pas possibles, jusqu'à l'aube. Et un jour, ce prince-là, un soir, ce prince-là, va se coucher, il arrive dans sa chambre. Et là, dans la pénombre de sa chambre, il entend une voix de derrière son lit, qui fait « Prince, je suis à ta merci, et je suis à votre merci, et j'implore votre pardon. Voilà, mais, écoutez mon histoire, je suis parti de mon pays, parce qu'on m'a dit que dans le vote, je pourrais trouver facilement du travail, que les gens étaient accueillants. J'ai été voir vos paysans pour essayer de trouver du travail. Ils m'ont chassé, ils ont lâché sur moi leurs chiens. Donc je suis venu me réfugier ici. » Et le prince, qui était quelqu'un de loyal, lui a dit: « Mon pauvre ami, je suis vraiment déçu, je suis confus, Je suis honteux que mes paysans, que mes gens se conduisent de la sorte. Si tu veux, je te prends à mon service. Deviens un de mes valets. Notre homme, mais il refuse cependant la tenue que l'on lui offre, la tenue de valet, pour lui garder sa tenue toute noire. Et puis en plus, lui, il ne parlait pas. Donc les autres valets, les autres gens de la maison se méfiaient un peu de lui quand il passait. En plus, on n'entendait pas venir. Les gens étaient méfiants, auraient bien aimé le chasser, dire tout le mal qu'il pensait de lui. Mais le prince ne jurait que par lui, parce que lui, il savait tout faire. Il savait coudre, il savait envoyer des fax, faire fonctionner le micro-ondes. Il savait, il savait chasser, il savait lire, écrire, faire plein de choses. Non, silence. Et il a vite été surnommé le valet noir en raison de sa tenue et de son apparence hostile. Un jour, ce valet noir, un soir, va voir son prince et lui dit « Prince, je pense que la manière dont vous menez votre vie à grands coups de danse et de chant tous les soirs avec tous vos amis, tous ces gens qui sont là, qui mangent à vos frais, jusqu'à pas d'heure, et qui boivent votre vin, à qui vous prêtez de l'argent en plus. À ce rythme-là, vous ne tiendrez pas longtemps. Il faut peut-être grandir, devenir un homme. Peut-être que vous courrez à la ruine. Ah ! A fait le prince. Valet, tu m'as fait peur. À un moment, la manière dont tu me regardais, on aurait cru un sorcier. Non, vraiment, je pense que tu t'en fais pour rien, je m'en sors très bien, puis j'ai plein d'amis, si jamais il m'arrivait quoi que ce soit, j'irai les voir, je leur ai tellement de fois prêté de l'argent, ils me dépanneraient en attendant que les jours meilleurs, il n'y a pas de problème. Enfin, tu peux retourner vaguer à tes occupations. Les jours passent, les semaines passent, les fêtes continuent, les gens continuent à festoyer, à boire, à chanter au son du tambourin dans le château jusqu'à point d'heure. Et un soir, le valet va voir le prince. Mon prince, comment se fait-il que ce soir vous ne festoyez pas avec vos amis, qu'il n'y ait personne dans ce château? Et notre prince lui dit, voilà, en fait, c'est la petite difficulté, c'est que je suis un peu ruiné là. Il faut savoir que j'ai compté aux assédis, que j'ai demandé les RMX. Et je suis un peu. J'irai voir des amis à moi, ils me passeront d'argent quand même. Ils mangeraient du coup. Le lendemain, le prince va trouver le valet et il dit, écoute, en fait, présent sur toute la ligne, ils m'ont donné des fausses excuses, des faux prétextes pour ne pas m'aider. Et je crois que là, au rythme où vont les choses, j'ai mes paysans qui les types, parce que qui gardent pour eux les récoltes. J'ai tous mes serviteurs, à part toi, mon fidèle et loyal serviteur, qui sont partis vers d'autres horizons. Je pense que je vais peut-être falloir que j'aille travailler un peu. Et le valet noir lui dit, nous allons partir tous les deux. Ils partent comme ça sur le route, et puis ils se font embaucher pour travailler dans les fermes. Et puis ils se trouvent à couper les blés, faire les vendanges. Et à la fin des journées, le prince noir, le valet noir, il est comme s'il n'avait rien fait, quoi, en fait. Il est tout fait comme un gardon. Mais par contre, le prince, il a mal partout, il est crevé, il est raide. C'est raide, raide, raide. Il ne veut même pas regarder la télé. Pourtant, il y a la Starac et tout, quoi. Non, il ne veut pas. Et comme ça, les jours se passent, l'été se passe, l'automne se passe. Et là, notre prince veut dire à son valet noir, écoute, je crois qu'il va peut-être falloir que nous trouvions notre endroit pour travailler. Et là, c'est le moment est venu où la terre va se reposer, où nous ne trouverons plus de travail, peut-être. Il serait bon d'aller mendier quelques travails dans les auberges et les tavernes. Et le valet noir, les princes sont quand même, vous accepteriez de, vous qui avez été si riche, de travailler pour des ivrognes, pour des ivrognes et des gens méchants. Et le prince lui fait écoute, j'ai su être riche, c'est autre chose. Et donc, Le René lui dit, moi j'ai une meilleure solution. En fait, je crois que tu ne sais pas vraiment qui je suis. Figure-toi que je suis un sorcier, un puissant sorcier. Et tu vas retrouver des jours meilleurs grâce à moi. Il l'emmène au cimetière de Biscarros. Et là, le prince commence à flipper pas mal quand même, hein, à se balader au milieu des tombes. Surtout que le Valet Noir lui a dit que c'était la nuit de la Saint-Jean et que c'était un jour plein de sorcellerie, ce jour-là. Il lui dit, voilà, tu vas aller au bord du lac de Biscarros, tu vas prendre des roseaux et avec ton couteau, tu vas te faire une flûte. Et après, tu iras au bord du lac, jouer de la flûte jusqu'à ce que 7 vaches chargées d'or dans des sacs de chanvre sortent du lac. Mais avant, je dois dire un truc. Quoi qu'il arrive, il te faudra beaucoup de courage. Surtout, tant que ta flûte n'est pas terminée, ne lâche pas ton couteau, ne lâche pas ton roseau. Quoi qu'il arrive, coupe, coupe, coupe. Et joue, quoi qu'il puisse arriver, jusqu'à ce que les 7 vaches soient sur la terre ferme. À tout à l'heure. Le prince reste là dans le cimetière. Va au bord du lac de Biscarros, coupe un roseau, commence à donner un premier coup. Et là, pour le coup d'après, il s'aperçoit que ce n'est plus un roseau qu'il a dans la main, que c'est un serpent. Il a un peu peur, c'est tout gluant, il y recoupe une autre fois, puis là c'est un dragon, le serpent se transforme en dragon, il recoupe, et c'est encore un serpent, et puis c'est un dragon, et puis là, horreur, au bout d'un moment, c'est un nouveau-né. Le prince est tout tremblant, il lâche presque son couteau, mais il coupe. Il coupe, il décapite le nouveau-né. Et là, il se rend compte qu'il tient dans sa main une flûte bien taillée. Il se dit, peut-être qu'il pourrait. Il va au bord du lac, il porte la flûte à sa bouche, il se met à jouer. Il ne sait pas jouer, il joue super faux, comme les gars qui chantent à la Starac. Il joue. Et là, il y a une première vache qui sort du lac. Comme si, sans faire trembler l'eau, vous voyez, comme si elle était ensorcelée. D'ailleurs, elle est en... C'est une vache pleine de sorcellerie, celle-là. Et puis elle meugle, c'est une horreur. Et le prince continue à jouer, puis à peine elle est sur la terre ferme, il y en a une deuxième qui arrive. Et puis une troisième. Puis là, au bout de la quatrième, les vaches se mettent à foncer sur lui. Et lui, il a peur, il continue à jouer quand même. Et puis là, une fois qu'il y a la septième qui est sur la terre ferme, elle s'immobilise tout, comme du marbre. Et là, le prince entend une voix derrière lui, le Valet Noir, qui fait « Alors, mon ami, t'as bien joué du pipeau ?»« Bon, mais je crois que là, t'es plus bon à rien. Je vais charger les sacs d'or sur les mulets que j'ai apportés. » Effectivement, le prince noir avait une petite chariote tirée par quelques mulets. Et donc, il charge, le prince étant... se remettant de ses émotions. Et là, il revient au château à Biscarros, qui maintenant n'est plus. Et là, en chemin, le prince lui dit, écoute, je te considère comme mon égal maintenant. J'ai été aussi pauvre que toi, je retourne au château. Je crois que je vais être plus raisonnable à l'avenir. Et par contre, toi qui as été si bon, on ne peut pas se séparer comme cela. Donc si tu veux bien abandonner ta sorcellerie, sera mon valet noir, mon valet d'honneur. Et s'ils s'en font, ils se prennent dans les bras l'un de l'autre, en criant de joie. Et là, les paysans qui étaient occupés dans leur champ ont vite compris que le prince était de retour. Et le prince et le valet noir, ils ont vécu jusqu'à leur mort dans le château qu'il y avait à Biscarros. Si l'envie vous prend de clapper des mains, allez.
Tanique comme mini sonné, t'allonges le mur du côté et te voici debout sur les pissenlits. Tu vois jouer mes enfants et je les entends qui crient maman. Y a un monsieur qui est bizarre. Côté de la balançoire, viens lui parler, nous on comprend pas son histoire. Et me voici près de toi, je suis ébahie que tu sois là. Tu n'as pas changé de brin, Ce qui est différent, c'est que t'es sur mon terrain. Ce qui est différent, c'est que ma main ne vit plus dans ta main. Tu n'as pas changé du tout, à part qu'il y a mes enfants qui jouent autour de toi, autour de nous. Il y a quelque chose qui cloche là-dessous. T'as commencé à parler, j'ai commencé à pleurer. Puis les enfants, ils se sont mis à pas t'aimer. Maman, c'est qui ce monsieur qui fout des larmes dans tes yeux? Je leur explique à demi que t'es disons un ami. Ça leur suffit, ils se réfugient dans la maison. J'ai fait exprès, j'ai pas dit ni d'où tu viens ni ton prénom. Je me sens comme prise en otage. Je me sens coupable d'avoir les deux yeux qui nagent. Je me sens coupable de ne pas te défendre le passage. Je me sens comme pas très correct face au visage dans la fenêtre de mes enfants qui font la tête. Il y a quelque chose qui cloche, mais je reste à écouter tes versions de notre fin de passion. Et j'ai le cœur qui s'empiffre d'émotions. Je suis affamée comme un lion, j'ai rien qu'envie de mordre à fond. Dedans ta bouche en mouvement qui me dit tout simplement les mots qui touchent, qui font mouche comme avant. Je suis nostalgique à mourir, je pleure des larmes de désir. Tu n'as pas changé d'une miette. Ce qui est différent, c'est les enfants qui nous guettent. Ce qui est différent, c'est que ma vie, moi, ben je l'ai refaite. Les pissenlits vont flétrir, leurs cheveux jaunes ne vont pâlir, devenir poussière et puis partir. Il y a quelque chose qui est moche à mourir. Ça y est, j'entends les gamins me dire « Maman, on a faim ». Je regarde ma montre, il est déjà midi et 20. Ça fait 2 heures qu'on est là, 2 heures que tu me tends les bras. Dans ma petite cervelle, je suis déjà toute infidèle. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie si belle. Je m'entends te dire désolée, y a les enfants qui m'appellent. Je monte sur mon balcon. Quand je me retourne, t'as les yeux comme des rayons. Tu fais demi-tour et soudain, je suis prise de frissons. Tu longes le mur du côté. Et ta voiture, eh ben, je l'entends démarrer. Et au lieu de te retenir, je prends une casserole, je mets de l'eau à bouillir. Il est midi 44, les gamins mangent des pâtes. Moi, je suis dehors, à genoux sur le gazon. Un pissenlit dans les mains qui a la marque de ton talon. T'avais fait ça il y a 10 ans, revenir me voir en coup de vent, quand mon plus vieux, il était encore au biberon. N'as-tu pas vu que son frère, il a les yeux comme des rayons? 9 ans et quelques poussières, et ta fossette sur le menton.
Avec ma nouvelle émission « Il était une fois le conte », moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radiooloron.fr. Il était une fois le conte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site ilétaitunefoislecomte.wordpress.com. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Oloron. Il était une fois le conte, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Moi je raconte des histoires que vous m'avez contées. Je les compte à ma manière, mais tout seul, je peux pas les inventer.
Voilà, donc, je vous propose que l'on se poursuive avec Aladdin et la lampe merveilleuse, qui sera suivi d'un morceau d'un groupe canadien, les Colocs. C'est du live, et c'est le morceau Le Pudding à l'arsenic. C'est Il était une fois le conte, la 9e, la 4e sur les contes merveilleux, et on parle des objets magiques.
était une fois, il y a très longtemps, dans un pays très lointain, un jeune garçon qui s'appelait Aladdin. Un jour, un étranger vint à passer. Il s'approcha d'Aladdin. « Mon garçon, dit l'homme, qui avait une grande barbe, j'ai remarqué que tu ressembles beaucoup à mon frère Mustapha. Serais-tu son fils ?»« Oui, seigneur, répondit le jeune garçon. Je suis Aladdin, fils de Mustapha, mais mon père est mort depuis longtemps. »« Alors, mène-moi à ta demeure, afin que je puisse voir la maison où vivait mon frère bien-aimé. » La mère d'Aladdin fut très surprise quand elle les vit entrer. Mustapha, son mari, ne lui avait jamais dit qu'il avait un frère. Mais comme le voyageur apportait beaucoup de fruits et du vin, elle l'accueillit avec joie. « Demain, annonça-t-il, j'emmènerai Aladdin avec moi. Et je vous le promets, lorsqu'il reviendra, il sera très très riche. » La mère toute heureuse recommanda à Aladdin de bien obéir à son nouvel oncle. Le lendemain, ils s'en allèrent tous les deux hors de la ville. Ils s'arrêtèrent dans un endroit désert. L'oncle se mit alors à faire du feu, bien que la journée fût très chaude. Puis, se penchant sur le feu, il prononça des paroles magiques. Et tout à coup, la terre s'entr'ouvrit. L'oncle d'Aladin était sûrement un magicien. Aladdin, dit-il, tu as juste la taille qu'il faut pour descendre dans ce trou par la trappe que tu vois là. Fais ce que je te dis, il ne t'arrivera aucun mal. Comment saurais-je si ce que vous dites est vrai ? Demanda Aladdin en tremblant de peur. Prends mon anneau, dit le magicien. Il est enchanté, il te protégera. Aladdin ouvrit la trappe et descendit les escaliers. Il traversa une caverne pleine de coffres renfermant des trésors. Mais le magicien lui avait dit de ne toucher à rien, et il obéit. Ensuite, il arriva dans un jardin, et sous un arbre, il vit une vieille lampe, fort sale. Aladdin prit la lampe, comme son oncle, le magicien, lui avait ordonné. Il vit aussi, avec émerveillement, des fruits magnifiques, faits de rubis, d'émeraudes et de diamants. Il ne pouvait pas les manger puisqu'ils étaient de pierres précieuses. Mais il en mit quelques-uns dans ses poches. Il revint sur ses pas, retraversa la caverne et remonta les escaliers. « Vite, vite, donne-moi la lampe et l'anneau et je t'aiderai à passer par le trou. »« Je n'en ferai rien, dit Aladdin, méfiant. Aidez-moi d'abord à remonter. » Le magicien poussa un grand cri et dans sa rage, il prononça les paroles magiques qui refermaient la trappe. Aladdin se trouva seul enfermé dans la caverne. Il se mit à pleurer en se tordant les mains. Sans le faire exprès, il toucha l'anneau que le magicien lui avait donné. Aussitôt, un nuage de fumée apparut et un grand génie se dressa devant lui.
Maître, quels sont vos ordres ?
Je voudrais retrouver ma maison et ma mère. En un éclair, il fut transporté chez lui, sain et sauf. Sa mère fut très heureuse de le revoir et lui raconta son aventure. Puis, comme il avait faim, il lui réclama à manger. « Hélas, mon enfant, dit-elle, nous n'avons plus rien et nous sommes trop pauvres. Peut-être pourrions-nous vendre la lampe que tu as trouvée. » Elle se mit à la nettoyer. Tout à coup, un nuage de fumée apparut et un génie immense, bien plus grand que le premier, se dressa devant eux.
« Maître, quels sont vos ordres ? »
La mère s'évanouit de peur. Cependant qu'Aladdin ordonnait tranquillement, « Apporte-nous notre dîner !» L'immense génie s'inclina et disparut. Il revint un instant plus tard, chargé de plats d'argent, remplis de mets délicieux. Mais le lendemain, il fallait de nouveau manger. Et Aladdin alla vendre au marché un des plats d'argent. Juste à ce moment, la princesse, fille du sultan, passait par là. Aladdin la vit. C'est elle, la plus belle princesse du monde. Ébloui, il en tomba tout de suite amoureux. Il se précipita chez lui et dit à sa mère, « Ma mère, je vous prie d'aller chez le sultan et de lui demander la main de la princesse, sa fille. Vous lui offrirez comme présent ces fruits que j'ai trouvés dans le jardin du magicien. » Après plusieurs jours d'attente et bien des démarches, la pauvre femme put enfin obtenir une audience du sultan. Seigneur, dit-elle, mon fils désire épouser la princesse, votre fille. Il lui offre ses fruits comme gage de son amour. Le sultan, qui était avare, prit les fruits merveilleux et dit, ton fils épousera la princesse s'il lui fait bâtir un palais aussi précieux que ses joyaux. Quand il connut la réponse du sultan, Aladdin frotta sa lampe. Le grand génie apparut. Et Aladdin ordonna. Je veux un palais avec des murs en marbre et des toits en or et des pierres précieuses autour des fenêtres. Je veux des serviteurs, des carrosses et des chevaux. Je veux des riches habits et des sacs pleins de pièces d'or. Un instant plus tard se dressait sur la colline le plus beau palais du monde. Aladdin se rendit au palais du sultan. Dès qu'elle le vit, la princesse en devint amoureuse. On les maria le jour même et le peuple fut convié à de grandes fêtes. La princesse et son époux vécurent heureux dans leur palais de marbre et d'or, jusqu'au jour où le méchant magicien menteur a pris leur bonheur. Il rentra dans une grande fureur et se déguisa en mendiant pour venir à la ville. Longtemps, il espionna le palais. Un jour, le sultan envoya Aladdin visiter une province éloignée. Restée seule, la princesse s'ennuyait. Elle entendit un marchand ambulant crier sous ses fenêtres.
Des lampes neuves contre des vieilles, j'échange les vieilles lampes contre des neuves, des lampes neuves contre des vieilles.
Ignorant du secret de la lampe magique et croyant plaire à son époux, la naïve princesse envoya un serviteur échanger la lampe merveilleuse contre une lampe neuve et très belle. Hélas, elle n'était pas magique. Le magicien frotta la lampe. Et le génie apparut. Emporte-moi jusqu'au fond de l'Afrique avec le palais et tous ses habitants. Lorsqu'Aladdin revint, le sultan désespéré lui apprit la tragique nouvelle. L'époux de la princesse comprit tout de suite que le méchant magicien était la cause de son malheur. Il frotta son anneau magique. Un génie apparut. Rends-moi mon palais et ramène-moi mon épouse.
Je ne le puis, maître. Mon pouvoir n'est pas aussi grand que celui du génie de la lampe.
Transporte-moi au moins à l'endroit où se trouve le palais. En un éclair, Aladdin se trouva au fond de l'Afrique. Et là, il vit le palais. Il attendit. Dès que le magicien fut sorti, il se glissa à l'intérieur, où il retrouva la douce princesse, qui était folle de joie. Mais il ne pouvait pas reprendre la lampe. Le méchant magicien ne s'en séparait jamais. Aladdin, alors, avec sa femme, imagina une ruse. Lorsque le magicien revint, à la nuit, la princesse lui tendit un gobelet de vin. À peine l'eut-il bu, qu'il tomba dans un profond sommeil. Ils avaient mélangé au vin un puissant narcotique. Aladdin sortit vite de sa cachette. Il prit la lampe et la frotta. Le génie apparut et se mit aux ordres de son nouveau maître. En un éclair, ils furent de retour dans leur pays, avec leur palais. Le sultan, transporté de joie, fit faire de grandes réjouissances, où il invita le peuple tout entier. Personne n'entendit plus parler jamais du méchant magicien. Peut-être se trouve-t-il encore au fond de l'Afrique, en train de chercher sa lampe.
Avec ma nouvelle émission « Il était une fois le conte », moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. « Il était une fois le conte », une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radiooloron.fr. Il était une fois le conte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site ilétaitunefoislecomte.wordpress.com. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Oloron. Il était une fois le conte parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Moi je raconte des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer.
Un tour de vis.
Alors, mon bon fils, mon maître, avez-vous préparé quelque chose de diabolique?
Ah, ce sera du gâteau.
Ah bon?
Beignet mortel?
Non.
Clafoutis au curare?
Classique.
Macaron foudroyant?
Non.
Tarte au venin de vipère.
Pantoute.
Ok. Ha! Le pudding à l'arsenic. Dans un grand bol de strychnine, dilué de la morphine, fait tirer à la casserole un grand verre de pétrole. Je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion tranché très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non! Mettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif et faites bouillir un feu vif. Je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, tire du sang de lézard, bouillir dans un dé à coudre
et un peu de sucre en poudre.
Non! Oh, crocodile. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Dormez sur les bancs du Nil, que mangeons les crocodiles. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisi dans du verre de gris, tant que votre pâte est molle.
Et un peu de vitriol.
Non.
Ouais.
Demain sur les pantinés, que mangeront les crocodiles. Que mangeront les crocodiles. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bancs du Nil, que mangeront les crocodiles.
Des crocodiles.
Papa, tu veux du la renoir.
Bon, c'était pas mal. Je vous propose de nous terminer avec deux dernières histoires, dont une dernière histoire des frères Grimm, Les trois feuilles du serpent, que je vous conte, celle-là, ainsi que Le petit poussé par Marlène Jobert. Et Les trois feuilles de serpent rejoint un peu la thématique de l'objet qui permet de comprendre le langage des animaux. On s'était vu il y a quelques émissions, Le langage obscur avec Henri Gougaud. Voilà, donc on se fait ça et on se termine avec l'émission avec le morceau musical Pedro par le groupe Los Tabascos, extrait de l'album Sous Lacrimo et Les Pavés. Voilà, voilà. La semaine prochaine, nous continuerons avec l'émission numéro 10 et on s'en continuera du coup avec les contes merveilleux pour la cinquième fois. Et nous verrons les contes et avec les questions de force et de savoir surnaturel. Voilà, bientôt les gens, n'hésitez pas à sortir, à aller voir les conteurs, à raconter des histoires, conter des histoires. Et si vous voulez venir conter dans l'émission, eh bien écoutez, faites-vous plaisir. Ou si vous êtes conteur et que vous voulez que éventuellement à l'avenir on consacre un bout d'émission sur ce que vous faites ou quoi, ou si vous vous sentez porteur d'une parole, écoutez, vous n'avez qu'à me contacter, laissez un petit message sur le site de Radio Oloron, radiooloron.fr, ou bien directement sur le blog livretaudio-katou.wordpress.com. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt les gens, prenez soin de vous. Bisous.
Les trois feuilles du serpent. Il y a maintenant fort longtemps, vivait un roi dont la sagesse était connue dans tout son royaume. On ne pouvait rien lui cacher. Il semblait capter dans les airs des nouvelles sur les choses les plus secrètes. Ce roi avait une étrange habitude. Tous les midis, alors que la grande table était desservie et qu'il n'y avait plus personne dans la salle, son serviteur lui apportait un certain plat. Mais c'était pas n'importe quel serviteur, c'était son serviteur le plus fidèle. Or, ce plat était recouvert et le valet lui-même ignorait ce qu'il contenait. Personne d'ailleurs ne le savait, car le roi ne soulevait le couvercle et ne commençait à manger que lorsqu'il était seul. Pendant longtemps, cela s'est passé ainsi. Mais un jour, le valet, ne sachant plus résister à sa curiosité, emporta le plat dans sa chambrette et referma soigneusement la porte derrière lui. Il souleva le couvercle et vit un serpent blanc au fond du plat. Cela sentait bon et il eut envie d'y goûter. N'y tenant plus, il en coupa un morceau et le porta à sa bouche. Mais à peine sentit-il le morceau sur sa bague, sur sa langue, pardon, qu'il entendit gazouiller sous la fenêtre. Il s'approcha, écouta, et se rendit compte qu'il s'agissait de moineaux qui se racontaient ce qu'ils avaient vu dans les champs et dans les forêts. Le fait d'avoir goûté au serpent lui avait donné la faculté de comprendre le langage des animaux. Ce jour-là, justement, la reine perdit sa plus belle bague, et les soupçons se portèrent sur le valet, qui avait la confiance du roi et avait donc accès partout. Le roi le fit appeler, le rudoya et menaça de le condamner s'il ne démasquait pas le coupable avant le lendemain matin. Le jeune homme jura qu'il était innocent, mais le roi ne voulut rien entendre et le renvoya. Le valet, effrayé, inquiet, descendit dans la cour où il commença à se demander comment il pourrait bien faire pour s'en tirer. Il y avait là sur le bord du ruisseau des canards qui se reposaient en discutant à voix basse tout en lissant leurs plumes avec leur bec. Le valet s'arrêta pour écouter. Les canards se racontaient qu'ils avaient pataugé ce matin-là et quelques bonnes choses ils avaient trouvées à manger, et l'un d'eux se plaignit. Oh, j'ai l'estomac lourd, car j'ai avalé par mégarde une bague qui était sous la fenêtre de la reine. Le valet l'attrapa aussitôt, le porta dans la cuisine et dit au cuisinier, saigne ce canard, il est déjà bien assez gras. D'accord, répondit le cuisinier en le soupesant. Il n'a pas été feignant et il s'est bien nourri. Il devrait depuis longtemps s'attendre à ce qu'on le mette dans le four. Il le saigna et trouva en le vidant la bague de la reine. Le valet put ainsi facilement prouver son innocence au roi. Celui-ci se rendit compte qu'il avait blessé son fidèle valet et voulut réparer son injustice. Il promit donc au jeune homme de lui accorder une faveur et la plus haute fonction honorifique de sa cour que le valet choisirait. Le valet refusa tout et demanda seulement un cheval et de l'argent pour la route, car il avait envie de partir à la découverte du monde. Aussi se mit-il en route dès qu'il eut reçu ce qu'il avait demandé. Un jour, il passa près d'un étang où trois poissons qui s'étaient pris dans les roseaux étaient en train de suffoquer. On dit que les poissons sont muets et pourtant le valet entendit leurs complaintes qui disaient qu'ils ne voulaient pas mourir si misérablement. Le jeune homme eut pitié d'eux. Il descendit de son cheval et rejeta les trois poissons prisonniers dans l'eau. Ceux-ci recommencèrent à frétiller gaiement, puis ils sortirent la tête de l'eau et crièrent « Nous n'oublierons pas que tu nous as sauvés et te revaudrons cela un jour. » Le valet continua à galoper et eut l'impression soudaine d'entendre une voix venant du sable foulée par son cheval. Il tendit l'oreille et entendit le roi des fourmis se lamenter. Oh, si les gens voulaient faire un peu plus attention et tenaient leurs animaux maladroits à l'écart, ce cheval stupide piétine avec ses lourds sabots mes pauvres serviteurs. Le jeune homme s'écarta aussitôt et le roi des fourmis cria, nous n'oublierons pas et te revaudrons cela un jour. Le chemin mena le valet dans la forêt où il vit un père corbeau et une mère corbeau en train de jeter tous leurs petits du nid. Allez-vous-en, sacripant, croissèrent-ils. Nous n'arrivons plus à vous nourrir, vous êtes déjà bien assez grand pour vous trouver à manger tout seul. Les pauvres petits, qui s'agitaient par terre en battant des ailes, piaillèrent. Comment pourrions-nous, pauvres petits que nous sommes, subvenir à nos besoins alors que nous ne savons même pas voler? Nous allons mourir de faim. Le jeune homme descendit aussitôt de son cheval, le transperça de son épée et l'abandonna au jeune corbeau qui, de fait, allait avoir de quoi se nourrir. Les petits s'approchèrent et après s'être rassasiés, crièrent « Nous ne t'oublierons pas et te revaudrons cela un jour ». Le valet fut désormais obligé de continuer sa route à pied. Il marcha. Il marcha, et à force de marcher, on fait plein de chemin, et après une longue marche, il arriva dans une grande ville dont les rues étaient très peuplées, très animées. Soudain, un homme arriva à cheval et annonça que l'on cherchait un époux pour la princesse royale, mais que celui qui voudrait l'épousé devrait passer une épreuve difficile et, s'il échouait, il devrait payer de sa vie. De nombreux prétendants s'y étaient déjà essayés et tous y avaient péri. Mais le jeune homme, lorsqu'il eut l'occasion de voir la princesse, fut si ébloui de sa beauté qu'il en oublia tous les dangers. Il se présenta donc comme prétendant devant le roi. On l'emmena immédiatement au bord de la mer et on jeta sous ses yeux un anneau d'or dans les vagues. Puis le roi lui ordonna de ramener l'anneau au fond de la mer et ajouta « Si tu émerges de l'eau sans l'anneau, les vagues te rejetteront sans cesse jusqu'à ce que tu périsses. » Tous plaignirent le jeune homme et s'en allèrent. Seul, debout, sur la plage, le valet se demanda ce qu'il allait bien pouvoir faire. Lorsqu'il vit soudain trois poissons s'approcher de lui. C'étaient les poissons auxquels il avait sauvé la vie. Le poisson du milieu portait dans sa gueule un coquillage qu'il déposa au pied du jeune homme. Celui-ci le prit, l'ouvrit et y trouva l'anneau d'or. Heureux, il le porta au roi, se réjouissant d'avance de la récompense. Or, la fille du roi était très orgueilleuse, et dès qu'elle lui apprit que son prétendant n'était pas de son rang, elle le méprisa et exigea qu'il subît une nouvelle épreuve. Elle descendit dans le jardin, et de ses propres mains, elle répandit dans l'herbe 10 sacs de millet. « Tu devras ramasser ce millet, ordonna-t-elle, que ces sacs soient remplis avant le lever du soleil, et pas un seul grain ne doit manquer. » Le jeune homme s'assit dans l'herbe et se demanda comment il allait bien pouvoir s'acquitter de cette nouvelle tâche. Ne trouvant pas de solution, il resta assis en attendant tristement l'aube et la mort. Or, dès que les premiers rayons du soleil éclairèrent le jardin, il vit devant lui les 10 sacs de millet remplis à ras. Ils étaient rangés les uns à côté des autres et pas un grain ne manquait. Le roi des fourmis était venu la nuit avec des milliers de ses serviteurs, et les fourmis reconnaissants avaient rassemblé tout le millet avec infiniment de soin et en avaient rempli les sacs. La princesse descendit elle-même dans le jardin et constata avec stupéfaction que son prétendant avait rempli sa tâche. Ne sachant pourtant toujours pas maîtriser son cœur plein d'orgueil, elle déclara « Il a su passer les 2 épreuves, mais je ne serai pas sa femme tant qu'il ne m'aura pas apporté une pomme de l'arbre de vie. » Le jeune homme ignorait où poussait un tel arbre. Mais il décida de marcher là où ses jambes voudraient bien le porter, sans trop d'espoir de trouver l'arbre en question. Il traversa 3 royaumes. Il arriva un soir dans une forêt. Il s'assit au pied d'un arbre pour se reposer un peu. Lorsqu'il entendit un bruissement dans les branches au-dessus de sa tête, une pomme d'or tomba dans sa main. Au même moment, 3 corbeaux se posèrent sur ses genoux et dirent « Nous sommes les 3 jeunes corbeaux que tu as sauvés de la famine. Nous avons appris que tu étais en quête de la pomme d'or. Et c'est pourquoi nous avons traversé la mer et nous sommes allés jusqu'au bout du monde où se trouve l'arbre de vie pour t'apporter cette pomme. » Le jeune homme, le cœur joyeux, prit le chemin du retour et remit la pomme d'or à la belle princesse qui ne pouvait plus se dérober. Ils coupèrent la pomme de vie en 2, la mangèrent ensemble et... À cet instant, le cœur de la princesse s'enflamma d'amour pour le jeune homme. Ils s'aimèrent et vécurent heureux. Et voilà.
Il était une fois un bûcheron et sa femme qui avaient 7 garçons. Le plus jeune était si petit qu'on l'appelait le petit Pousset. Il ne parlait pas beaucoup, mais à ses yeux malicieux, on voyait tout de suite qu'il était très intelligent. Le bûcheron et sa famille vivaient déjà dans une grande pauvreté, mais cet automne-là, ce fut pire que jamais. Un jour, il n'y eut plus rien à manger à la maison. Ce soir-là, quand les enfants furent couchés, les parents, ne trouvant aucun remède à leur misère, étaient désespérés. Ils n'avaient pas le choix. Pour eux, la seule et terrible solution était qu'il valait mieux abandonner leurs enfants dans la forêt plutôt que de les voir mourir de faim. Le père et la mère décidèrent alors de perdre leurs 7 garçons. Le petit Pousset, caché sous un tabouret, avait tout vu, tout entendu. Il retourna dans son lit et réfléchit toute la nuit. Très tôt le matin, le petit poucet courut ramasser des cailloux blancs au bord du ruisseau, en remplit ses poches et rentra aussitôt. Plus tard, les parents proposèrent aux enfants une promenade en forêt. Le petit poucet ne dit rien de ce qu'il savait à ses frères, mais tout le long du chemin, il laissa tomber un à un les petits cailloux blancs ramassés le matin. Lorsqu'ils furent arrivés au cœur de la forêt, les parents attendirent que les enfants soient bien occupés à s'amuser pour s'éloigner peu à peu, puis disparaître tout à fait. Les enfants, se voyant seuls, s'affolèrent et se mirent tous à pleurer, tous, sauf le petit poucet qui leur dit
« Ne vous inquiétez pas, suivez-moi, je peux vous ramener chez nous. »
Grâce au petit poucet et à ses cailloux blancs, qu'ils suivirent un à un, les enfants retrouvèrent leur maison. Lorsqu'ils franchirent la porte, leurs parents poussèrent des cris de joie et les enfants se jetèrent dans leurs bras. Les petits se laissèrent embrasser sans se rendre compte que dans les sourires et les baisers de leur père et de leur mère, il n'y avait pas que du bonheur, mais aussi le reflet d'une immense angoisse. Quel serait l'avenir? Comment les nourrir? Malgré tout, ils essayèrent de se laisser aller à la joie de retrouver leurs enfants sains et saufs. Mais hélas, le bonheur fut de courte durée. La faim, la terrible faim, celle qui tourmente tous les instants, vint tout gâcher. Les jours s'étiraient dans la tristesse la plus grande et un soir, tout recommença. Les parents, en pleurant, décidèrent alors de perdre encore leurs enfants, mais beaucoup plus loin cette fois, pour qu'ils ne puissent jamais revenir. Le petit poucet, qui avait tout vu, tout entendu, comme la première fois, voulut sortir au lever du jour pour ramasser ses petits cailloux blancs. Mais la porte était fermée à double tour. Avant de partir en forêt, la mère, dissimulant son immense chagrin, distribua à chacun les tout derniers morceaux de pain qui lui restaient. Tout le long du chemin, à la place des cailloux blancs, le petit poucet eut l'idée de laisser tomber des miettes de pain. Ainsi, quand au plus profond de la forêt, les enfants se retrouvèrent à nouveau seuls, le petit poucet fièrement rassura ses frères.
« N'ayez pas peur, suivez-moi !»
Mais une mauvaise surprise l'attendait cette fois. Plus aucune trace de miettes de pain, plus rien. Le petit poucet n'avait pas pensé aux oiseaux. Ils avaient tout mangé. Alors les enfants se mirent à marcher, marcher, marcher. Plus ils marchaient, plus ils se perdaient. La nuit vint avec les hurlements des loups. Le petit poucet grimpa dans un arbre, espérant apercevoir un abri. Et il vit, mais très loin, une petite lumière. Dans cette direction, ses frères le suivirent courageusement, malgré le froid, le vent, la pluie et le hurlement des loups, qui devenait de plus en plus angoissant. Ils arrivèrent enfin, complètement épuisés, devant une grande et belle maison. Ils frappèrent à la porte, une femme ouvrit. Ils dirent en pleurant
« Nous sommes perdus, nous avons froid et faim. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous abriter pour la nuit ?»«
Mes pauvres petits !» répondit la femme sincèrement désolée. « C'est ici la maison d'un ogre qui mange les enfants. Vous êtes bien mal tombés. »«
Si vous ne nous laissez pas entrer, » répondit le petit poucet, « ce sont les loups qui vont nous dévorer. Peut-être l'ogre aura-t-il pitié de nous si vous l'en priez. »
Ils avaient l'air si malheureux qu'elle les fit entrer, en pensant qu'elle pourrait les cacher à son mari jusqu'au lendemain. Elle les installa près de la cheminée, où un mouton entier cuisait pour le dîner de l'ogre. Les enfants commençaient à se réchauffer lorsqu'un énorme bruit les fit sursauter.
« C'est l'ogre !»
souffla la femme complètement affolée. « Cachez-vous là, sous le lit, vite !» À peine était-il entré que l'ogre demanda à manger. Puis, reniflant de tous les côtés, il dit tout étonné.
Mais ça sent la chair fraîche.
Ah bon ? Répondit la femme peu rassurée. Ce doit être la viande que je vous ai préparée. L'ogre la regarda de travers.
Je te répète, femme, que je sens la chair fraîche. Ça tombe bien. Je suis affamé.
Dit-il en laissant l'odeur le guider jusque sous le lit où étaient cachés les petits.
Tu m'as menti, femme, dans le souci de me faire une appétissante surprise, mais c'est à la fois. Quelle merveille !
Fit-il en leur tâtant les cuisses et les bras.
Il y a bien longtemps que je n'ai eu droit à une aubaine pareille.
Alors il prit un grand couteau, l'aiguisa pour qu'il coupe bien et attrapa un des garçons. Sa femme s'écria : Non ! Vous avez un veau et un mouton à manger pour ce soir. Que ferez-vous des enfants ? Attendez donc demain.
Tu as raison,
dit l'ogre.
Alors donne-leur bien à manger pour qu'ils soient encore plus appétissants, plus grassouillets.
Et l'ogre se mit à engloutir à grands coups de mâchoire tout ce qu'il y avait à manger et à boire, la graisse et le sang dégoulinaient sur sa barbe et ses doigts. La femme servit les petits, mais ils ne purent rien avaler. Ils étaient partagés entre la peur et la nausée. L'ogre avait 7 filles. Ces 7 petites ogresses ne mangeaient que de la viande saignante, bien sûr. Ce qui leur donnait bonne mine. Mais elles avaient déjà une bien grande bouche, de bien longues dents pointues et déjà un air bien méchant. Elles étaient alors endormies dans leur très grand lit et chacune avait une couronne d'or sur la tête. La femme de l'ogre coucha les 7 garçons dans la chambre des petites ogresses, sur un autre grand lit semblable au premier, puis elle repartit. Dans le noir, les petits ruminaient des idées d'évasion. Mais rien ne serait possible tant que l'ogre resterait éveillé.
Et s'il changeait d'humeur ?
Pensa le petit poussé, qui avait peur que l'ogre n'ait envie de les tuer avant de se coucher. Soudain, une idée le fit se lever d'un bond. Il enleva doucement les 7 couronnes d'or de la tête des ogresses pour les échanger contre les 7 bonnets des garçons, afin de tromper l'ogre. Il avait réagi juste à temps. À peine s'était-il recouché et avait-il ajusté sa couronne que l'ogre entra dans la chambre. Avec son grand couteau à la main, il s'approcha du lit des garçons. Dans l'obscurité, il sentit les couronnes.
« Moi, j'allais me tromper. Ce sont mes filles que j'ai failli tuer, vous !»
dit-il en ricanant et en se dirigeant vers l'autre lit. Puis il sentit les bonnets, et cette fois sûr de lui, il trancha la gorge des 7 ogresses. Ensuite, il leur suça quelques litres de sang et dit en allant se coucher :
« J'ai bien fait d'y goûter, ils sont encore meilleurs que je l'imaginais !»
Dès les premiers ronflements de l'ogre, les petits se glissèrent hors de la maison. Ils coururent toute la nuit. Comme si la vision d'horreur de ce qu'ils venaient de vivre les poursuivait, ils fuyaient dans la forêt sans savoir où ils allaient. Ils fuyaient. Le matin, à peine était-il éveillé que l'ogre demanda à sa femme d'aller lui chercher pour son petit déjeuner 2 enfants. Le cri d'épouvante qu'elle poussa en ouvrant la porte de la chambre, le fit accourir. En découvrant l'horrible spectacle et la fuite des garçons, il hurla avec une rage épouvantable.
« Femme ! Mes bottes de 7 lieues !»
Il enfila ses bottes et se mit à courir comme un diable. D'un pas, il pouvait écraser un arbre, d'un bond franchir une montagne. Alors bien sûr, en un rien de temps, il arriva à l'endroit où se trouvaient les enfants. Les 7 frères venaient par miracle de reconnaître le chemin qui allait les ramener chez eux. La terre tremblait, l'ogre approchait. Les 7 frères eurent juste le temps de se cacher sous un gros rocher. Et sur ce même rocher, l'ogre, épuisé par sa course folle, s'allongea et s'endormit d'un seul coup. Son ronflement fit trembler le rocher, ainsi que les petits qui n'osaient pas bouger. Alors,
Le petit poucet eut encore une idée. Il chuchota à ses frères.
« Rentrez à la maison, je vous rejoindrai bientôt. Allez-y vite, pendant que l'ogre est bien endormi. »
Il n'eut pas besoin de le dire deux fois. Ils partirent comme des flèches. Puis le petit poucet s'approcha tout doucement de l'ogre et lui ôta ses bottes sans le réveiller. Il les mit à ses pieds. Elles lui allaient parfaitement bien, car elles étaient magiques. Elles devenaient grandes pour les grands pieds et petites pour les petits pieds. Cette magie qui l'enchantait lui donna une idée plus malicieuse encore. Le petit poucet alla droit à la maison de l'ogre. Et il y arriva si rapidement, en sautant par-dessus les rivières, les forêts et les torrents, qu'il en fut tout ému. Il en pleurait et riait en même temps.
« Votre mari est en danger !» dit-il à la femme de l'ogre. « Il a été attaqué par des brigands. Ils vont le tuer s'il ne leur donne pas tout son or et tout son argent. Voyez, il m'a confié ses bottes de 7 lieues pour que je vous prévienne le plus vite possible. »
La femme crut ce qu'il disait. Elle lui donna sans hésiter toutes les richesses qu'elle avait. Le petit poucet rentra alors chez lui, chargé d'or et d'argent. Il fut bien sûr accueilli dans la plus grande joie par ses frères et ses parents. Mais quand le bonheur est soudain si grand, il fait pleurer. Alors ils essuyèrent beaucoup de jolies larmes en s'embrassant. Grâce à leur cher petit poucet, la famille vécut très heureuse et ne manqua plus jamais de rien.
Thank you.
avec ma nouvelle émission « Il était une fois le conte », moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. « Il était une fois le conte », une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radiooloron.fr. Il était une fois le conte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site ilétaitunefoislecompte.wordpress.com. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Oloron. Il était une fois le conte parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Moi je raconte des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer.